11h24, bienvenue dans Trudeau Landry 25226 pour nous joindre. On va parler un peu de ce qui se passe avec Donald Trump qui devra subir une espèce de procès devant le Sénat. Puis je pense que les mots et les termes sont importants parce que quand tu écoutes, quand tu suis l'actualité en anglais, on voit beaucoup le terme « impeached ». Comme si c'était fait, comme si c'était réglé, comme s'il avait été destitué. Mais c'est pas ce que ça veut dire. Là, l'étape qui a été franchie hier, c'est qu'on amène le dossier, si vous voulez, de Donald Trump devant le Sénat, où là, il y aura un procès puis une décision finale éventuellement. On va démêler tout ça avec notre expert en politique américaine, l'excellent Raphaël Jacob. Salut, Raph!
Salut, monsieur!
Démêle-nous là-dedans, là, parce que quand on voit, comme je disais, quand on voit ça impeached, on a l'impression que c'est fini, que c'est réglé, qu'il est destitué, mais c'est pas tout à fait ça, là.
Non, c'est un espèce d'exercice de pédagogie récurrent avec Donald Trump, parce qu'on dirait qu'à chaque année, on a un nouveau processus de décision contre lui. Ouais. Il faut toujours rappeler aux gens qu'est-ce que chaque terme veut dire. Et premièrement, impeachment ne veut pas dire destitution. Ça, faut le rappeler, puis le rappeler. Là. Fait qu'un président qui est, en bon français, impeaché, qui est impeached, c'est pas un président qui est destitué. C'est un président qui est mis en accusation. Okay. Parce que l'impeachment, c'est le processus qui a lieu à la Chambre des représentants. La Chambre a le pouvoir d'impeacher. Puis impeacher, c'est quoi? Ben, encore une fois, c'est formellement accuser le président des États-Unis d'un délit. Une fois que la Chambre fait ça, comme tu l'as dit tantôt, c'est acheminé au Sénat et c'est le Sénat qui a le pouvoir, qui a la responsabilité, en fait, de mener un procès. Et donc, c'est seulement le Sénat qui a le pouvoir, au bout de ce processus-là, de choisir si on destitue ou non. Et si on ne destitue pas, on acquitte. C'est vraiment des termes là, juridiques qui sont utilisés. Donc, soit on le reconnaît coupable et il est destitué, ou on le reconnaît comme étant non coupable, il est acquitté. L'an dernier, lors du premier processus de destitution contre lui, il avait été impeaché, donc accusé formellement par la Chambre, acquitté par le Sénat. Là, il vient d'être accusé à nouveau par la Chambre, impeaché une deuxième fois, premier président d'histoire, là, les médias l'ont répété beaucoup depuis les derniers jours, à être impeaché, à être accusé deux fois. Là, c'est dans le camp du Sénat, mais contrairement à l'an dernier, en fait, contrairement à tout autre précédent dans l'histoire américaine, on se dirigerait vers un procès après qu'il ait quitté ses fonctions. Et donc, on ne sait honnêtement même pas aujourd'hui si le Sénat a ce pouvoir-là de mener un procès contre un ex-président.
Parce que, mais comment ça, on ne sait pas?
On ne sait pas parce que ça n'a jamais été fait. On est là-dessus, comme sur bien des choses avec Donald Trump, en territoire complètement inédit. Et pensez-y juste logiquement un instant. On parle d'un processus de destitution. En quoi le Sénat pourrait destituer de ses fonctions un président qui n'est plus en fonction? Fait que c'est vraiment, vraiment pas évident. Ce qu'on sait, c'est que le leader du Sénat a dit très clairement cette semaine qu'il n'allait pas commencer de procès avant le 20 janvier. Okay. Fait que, écoute, il risque de se passer quelque chose après coup. Mais quoi exactement? Puis qu'est-ce que ça va donner? Honnêtement, il n'y a personne qui peut vous donner une réponse définitive présentement.
Les gens se posent la question aussi, Raphaël. Est-ce qu'il y a des chances que... Puis on a souvent dit que Donald Trump avait peur de la prison, OK? Oui. Y a-t-il quelque chose, une procédure actuelle qui est en cours qui pourrait éventuellement mener à l'emprisonnement de Donald Trump?
OK, ça, c'est clé comme question. J'ai encore quelqu'un de proche de moi hier qui me demandait... comment ça qu'il y a juste ça comme conséquence? Mm-hmm. Ce qu'il a fait, ça a mené carrément à des meurtres. Ce qui est vrai, soit dit en passant, il faut jamais l'oublier. Ouais. Il y a eu mort d'homme là, la semaine dernière. Ça n'a pas juste été une insurrection. Ça s'est soldé par le meurtre, notamment absolument épouvantable d'un officier de police au Capitole qui a été battu à mort. Fait que, non, je comprends qu'il y a bien des gens qui se disent ça se peut comme pas que la pire chose à laquelle il puisse faire face, c'est peut-être d'être destitué de ses fonctions, puis après même qu'il ait quitté ces fonctions-là. Mais justement, il n'y a pas juste ça. Donc, d'un côté, il y a la traque, si on veut, politique, la traque constitutionnelle. Ça, c'est le Congrès qui s'en occupe. Le Congrès a le pouvoir, s'il le veut, de destituer le président. Mais en plus de ça, de façon séparée, une fois qu'il quitte la présidence, l'ex-président, en fait, redevient un simple citoyen. Et quand tu es un simple citoyen aux États-Unis, normalement, ben tu jouis pas d'immunité présidentielle. Et ça veut dire que au niveau légal, au niveau criminel, au niveau civil, tu es passible de poursuites comme n'importe qui d'autre. Donc, ce qui protège Donald Trump, d'un point de vue, encore une fois, le criminel, pour ce qui est de la prison, bon, tout ça, depuis 4 ans, c'est qu'il est le président en exercice. Une fois qu'il ne l'est plus, oui, il s'expose à une foule de problèmes légaux. Et c'est, je vous dirais, beaucoup ce qui semble expliquer son comportement des dernières heures et des derniers jours. Parce que vous avez sans doute vu comment il s'est comporté hier. Oui. pendant le vote sur l'impeachment à la Chambre, alors que normalement, on s'entend, il aurait dû être déchaîné. Mais c'est difficile, on s'entend aussi présentement pour lui d'être déchaîné, considérant qu'il n'y a plus aucun espèce de compte de médias sociaux. Il était barré partout. mais il reste que ce que la Maison-Blanche a émis, ça a été une première déclaration. Puis après ça, en fin de journée, une espèce de vidéo de 5 minutes de Donald Trump. Et dans les deux cas, là, on avait des appels au calme, des appels à
l'unité. Raphaël, regarde, on va écouter un extrait de la vidéo qu'on a sorti Donald Trump hier soir à la Maison-Blanche.
The incursion of the U.S. Capitol struck at the very heart of our republic. It angered and appalled millions of Americans across the political spectrum. I want to be very clear. I unequivocally condemn the violence that we saw last week. Violence and vandalism have absolutely no place in our country and no place in our movement. Making America great again has always been about defending the rule of law, supporting the men and women of law enforcement, and upholding our nation's most sacred traditions and values.
Bon, certains vont dire, wow. OK, là, il le condamne, mais ça a pris une semaine avant de le condamner aussi fermement. Et surtout, je dis pas qu'il fallait s'attendre à ce qu'il fasse ça, mais aucune espèce d'aveu d'un début de responsabilité ou d'excuse ou de quoi que ce soit. Donc, il fait l'effort, mais ça passe pas nécessairement la rampe pour bien des gens.
Tu vas me dire, Joe, que t'es pas ému par le changement de cœur soudain du président? T'es pas impressionné par son épiphanie?
Non, mais sais-tu quoi, je suis pas impressionné... je suis pas impressionné, ce sera un point de vue personnel, et je pense pas que ça va changer quoi que ce soit dans l'appréciation que les politiciens font de ce qu'il a fait. Par contre, je me dis, si ça peut aider à apaiser des tensions, puis envoyer le message à certains pro-Trump que c'est pas le temps d'aller s'en prendre à tous les capitoles des États, etc., ben ce sera toujours bien ça de gagner quand même.
T'as raison, ça sera toujours bien ça. En même temps, je pense qu'il faut ne pas tomber dans le cynisme, mais quand même être franc. Le but de cette vidéo-là, ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire. C'est pas pour calmer les tensions. C'est pour protéger ses propres fesses. Il faut le dire très clairement. L'idée derrière ça, la stratégie derrière ça, et c'est pas un hasard là, qu'il ait sorti ça pendant le vote sur l'impeachment, c'est pour essayer d'envoyer un message d'abord au Sénat américain, et puis dans un deuxième temps à tout ce qui est procureur aux États-Unis, comme quoi, regardez, j'ai compris, là, je vais me calmer. Je veux juste qu'on fasse une transition ordonnée, pacifique, je fais un appel à l'unité. C'est ça le but. Là, son seul intérêt présentement, c'est de se protéger. Et la raison pour laquelle je suis aussi définitif là-dessus, c'est qu'on le sait maintenant que ses propres avocats à l'interne lui disent depuis les derniers jours qu'il s'est, puis là je vais prendre un terme là, juridique de l'anglais, il s'est exposé. Il est exposed présentement d'un point de vue criminel, carrément. Et donc, il y a ça, et il y a aussi ceci que je me permets d'ajouter rapidement. On s'est beaucoup parlé de la question de l'auto-pardon potentiel là, qui
pourrait
se donner.
Oui, à la fin du mandat.
À la fin du mandat. Ouais. Si vous demandez pourquoi, à peu près 6 jours de son départ, pourquoi il ne l'a toujours pas fait, je pensais vous dire qu'il ne le fera pas. Mais une chose qui semble beaucoup le retenir présentement, c'est que justement, ses avocats lui ont aussi dit « Watch out, fais attention avec l'auto-pardon, parce que si tu te grasses toi-même, t'envoies un message hyper clair comme quoi tu te considères
coupable.
Comme étant coupable. » Exactement. Fait que c'est tout ce qu'on voit depuis hier là, qui sort de la Maison-Blanche, c'est une espèce de charade qui a un objectif fondamental, c'est protéger le président après le 20 janvier.
Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent, avec tout ça, là, le processus qui est en cours actuellement, puis si jamais il y a des accusations criminelles, whatever, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent qu'ils sont en train de gonfler le Trumpisme, que ça pourrait peut-être donner du gaz à ses descendants, à la suite des choses? Qu'est-ce que tu réponds à ça, Raphaël?
Je réponds que c'est pas fou. C'est un risque. C'est vrai que c'est un risque. Il n'y a pas d'option parfaite présentement. C'est vrai à la fois au niveau du processus de destitution. C'est vrai également par rapport à de possibles poursuites criminelles après qu'il ait quitté ses fonctions. C'est même vrai à la limite par rapport, j'évoquais tantôt le fait qu'il a été banni d'à peu près tous les médias sociaux, là, ouais. Que ce soit Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube, name it. Ils l'ont tous banni. Il y a un risque aussi par rapport à ça. D'enflammer ce mouvement-là encore davantage, de faire de Donald Trump un martyr. Tu sais, dans les années 70, lorsqu'on avait gracié Nixon, ouais. On se disait, le calcul qui avait été fait par le président Ford, là, qui avait gracié Nixon, c'est-à-dire, ça serait terrible pour la psyché nationale américaine de voir un ex-président derrière les barreaux. Là, dans ce cas-ci, je pense que le risque serait de galvaniser des deux côtés. C'est-à-dire que d'un côté, je pense qu'il y aurait une énorme partie de la population américaine qui serait presque jouissive de voir Donald Trump derrière les barreaux. Mais le contre-effet de ça, c'est que tu aurais assurément des millions d'Américains, puis j'y vais de façon conservatrice, là, qui seraient enragés de ces images-là. Fait que, effectivement, il n'y a pas de bonne option. Parce que d'un côté, tu peux comme pas cautionner ce qui s'est passé. Fait que t'as comme pas le choix de le punir, que ne serait-ce que d'un point de vue moral, d'un point de vue démocratique. Mais c'est vrai qu'il faut que tu tiennes compte du contexte. Puis c'est un contexte qui est hyper volatile, hyper dangereux. Puis il faut que tu prennes acte de ça. Puis l'autre chose, je pense qu'on réalise peut-être moins présentement parce qu'on le voit peu dans les nouvelles, même si c'est le président élu, c'est qu'il y a un homme qui s'appelle Joe Biden qui va devenir président dans 6 jours.
Hey, c'est vrai.
Mais oui, il ne pense plus. Ça va être plate.
Mais, c'est encore drôle ça. Mais il reste que, d'un point de vue politique, là, pour le nouveau président, je suis pas sûr que c'est super intéressant de voir le Sénat, qui va être contrôlé là par son parti à partir de la semaine prochaine, injecter beaucoup de temps, d'énergie, d'efforts, de ressources sur son prédécesseur. Alors que lui, il y a un programme politique qu'il veut faire passer. Tu sais, il y a beaucoup de considérations qui font en sorte que, encore une fois, c'est très difficile à la fois de prédire ce qui va être fait, puis même d'analyser ce qui devrait être fait.
Tu sais, Raphaël, tu viens un peu de répondre là, à la prochaine question que j'avais, mais quand même, j'y vais de façon plus précise. S'il y avait effectivement le procès au Sénat, ce serait la nouvelle composition du Sénat, donc avec une possibilité de majorité démocrate. Parce que je me faisais la réflexion parce qu'on dit c'est comme un procès. Ben quand quelqu'un est accusé pour quelque chose qui s'est passé dans les années 70, ben c'est l'état du droit à cette époque-là, puis les chefs d'accusation qui avaient lieu à cette époque-là qui sont utilisés. Fait que je me disais, ce serait-tu le Sénat actuel ou le nouveau Sénat? Ça, là-dessus, est-ce que c'est assez clair que ce serait la nouvelle composition qui en disposerait?
Ouais, c'est-à-dire, là, c'est parce que là, ça devient un petit peu technique. Je veux pas perdre personne là, parmi les gens qui nous écoutent, mais c'est que on a déjà le nouveau Congrès. Donc, c'est déjà la nouvelle Chambre puis le nouveau Sénat qui sont en fonction présentement. Ça a commencé au début du mois de janvier. Le Congrès est assermenté avant le président. Okay. La seule chose au Sénat, c'est que puisqu'on a eu 2 élections en Géorgie la semaine dernière, là, il y avait 2 sièges à pourvoir. Bon, ça, c'est pas réglé à ce niveau-là, mais c'est quand même, entre guillemets, le nouveau Sénat. Dans tous les cas, présumant qu'on va de l'avant après le 20 janvier, oui, ça va être les démocrates qui vont être en contrôle. Ça va être une majorité on ne peut plus mince, là, 50-50 avec la nouvelle vice-présidente démocrate qui brise l'égalité. Mais dans tous les cas, qu'on soit 50-50, 51-49, 52-48 d'un bord ou de l'autre, ne perdons jamais de vue qu'au Sénat, c'était la même chose l'an dernier, c'est pour ça, en fait, en bonne partie que Trump a été acquitté, ça prend pas une majorité simple. Ça prend les 2/3 des voix pour destituer le président. Fait qu'encore une fois, que les démocrates soient 50 ou 51 ou 49, ça va leur prendre à peu près le tiers des sénateurs républicains présents qui vont voter avec eux pour destituer Trump. Fait que tu sais, c'est loin d'être fait, même si le procès a lieu et même si le procès a le droit d'avoir lieu, qu'on peut effectivement mener un procès en destitution contre un ex-président, c'est très, très loin d'être évident qu'il va y avoir assez de républicains qui vont voter contre Trump pour le condamner. Là.
Avant de te laisser, Raph, question concernant l'investiture de Joe Biden la semaine prochaine. J'entends des commentaires, puis tu me corrigeras, mais moi, c'est des commentaires que j'entends beaucoup au Québec de gens qui commentent un peu ce qui se passe aux États-Unis, qui disent, ouais, la cérémonie d'investiture de Biden, il devrait faire ça à l'abri d'une salle virtuelle au lieu de faire ça devant le Capitole, comme c'est toujours le cas actuellement.
Sur Zoom, tu veux dire?
Ouais, sur Zoom. Ou, tu sais, on dirait qu'il y en a qui sous-estiment, je pense, l'importance de se tenir debout devant les casseurs. Mais sûr, regarde, c'est ma perception. Moi, je pense que ça devrait se tenir comme à l'habitude devant le Capitole. La démocratie américaine est plus forte que les casseurs. Toi, comment tu vois ça?
Je vois ça comme toi à la base, mais en même temps, c'est ni toi ni moi qui avons le dernier mot là-dessus. Et justement,
je te nomme organisateur de la cérémonie, Raph.
Ben, il est trop tard. Je te remercie, Jérôme. J'espère que la hausse dans mon chèque de paye va s'accompagner.
J'ai pas de détails à te donner là-dessus.
mais ce que je te dirais, c'est que si ça avait été de moi, je serais allé dans ton sens, sauf que la décision a été annoncée littéralement avant qu'on entre en onde ensemble tantôt.
Oh, OK. J'ai pas vu.
Et ça sera pas ça du tout. OK. Ça va être exactement le contraire. C'est-à-dire que non seulement on va avoir droit à une cérémonie pas mal plus, disons, réservée, là, mais ce qu'on appelle le mall, là, le mail à Washington, là, tu sais c'est quoi, tout ça va être carrément fermé.
Okay.
Fermé au public. Fait que, tu sais, les foules qu'on a vues, là, toutes les assermentations, Clinton, Bush, Obama, Trump, peu importe, il n'y en aura juste pas. Puis à la base, on se disait qu'on s'attendait à ce qu'il n'y en ait pas une grosse de toute façon à cause des restrictions COVID.
Mais est-ce qu'on sait si Biden va être à l'extérieur dans les marches avec le juge de la Cour suprême et tout ça?
Ben, ça va être avec le juge en chef de la Cour suprême normalement. Ouais. C'est toujours lui qui fait le serment d'assermentation du nouveau président. Mais où est-ce que ça va être exactement, je sais pas. Mais écoute, dans tous les cas, Jérôme, que ça soit dehors, en dedans, sur Zoom, je veux dire, à partir du moment où le mic à Washington est carrément fermé au public, ben oui. Le message que toi et moi, je pense qu'on voulait pas qu'il soit envoyé, va être envoyé assurément. Là.
Merci beaucoup, Raph. On se parle dans les prochains jours.
C'est good. Bye.
Salut.
Raphaël Jacob, notre expert en politique américaine. Ah non, mais moi, sérieusement, moi... Théoriquement, moi quand j'entends ça, puis ça c'est des commentaires que t'entends beaucoup au Québec, des fois certains commentateurs qu'on voit qui, tu vois que la politique américaine, ils suivent ça beaucoup en surface, ils disent « Ah non, il faut que Biden s'enferme dans un local. »
Mais
c'est parce que non, moi je peux pas concevoir ça, puis en bout de ligne, c'est peut-être eux autres qui vont avoir raison, c'est peut-être de même, ça va se passer aussi la semaine prochaine, mais moi je pense, moi mon opinion moi c'est que tu peux pas faire ça. Le président doit être sur les marches du Capitole, avec le juge en chef de la Cour suprême, avec le vice-président qui est là, la vice-présidente, tous les dignitaires habituels. Faut que tu te tiennes debout devant des bouffons, là.
Ah oui.
Devant des terroristes, des terroristes domestiques, là. Faut que tu te tiennes debout devant le gars du bison des bisons des prairies, là, à mon avis, à moi, là.
D'après moi, Jérôme, les photos qu'on voit, hein, qui circulent de centaines et centaines de membres de la Garde nationale qui couchent sur le plancher du Capitole.
Ouais.
Parce qu'ils sont prêts, sont là.
Ben, c'est ça.
Ça envoie un message que, essayez pas, là. Vous réussirez, cette fois-ci, vous ne réussirez pas à percer
non,
la porte.
Il faut pas. Concernant Trump, tantôt, il y a quelqu'un qui nous écrivait parmi les nombreux textos qu'on reçoit au 25226. Quelqu'un qui nous dit « Hey, je connais un Américain qui est débarqué de Facebook parce que Trump a été banni de Facebook. » OK. Pas sûr que Mark Zuckerberg va s'empêcher de dormir avec ça ce soir.
T'as-tu la réponse que j'avais écrite à l'auditeur?
Qu'est-ce que t'as dit?
Exactement ça, j'y ai dit.
Okay, okay.
Ouais, mais je pense pas que Zuckerberg a de la grosse pépine.
Ouais, mais c'est juste, je veux juste revenir 30 secondes là-dessus, là, l'histoire de la censure. C'est que là, il y en a qui vont dire « Ah, regardez, on est rendu comme en Chine. On est rendu comme dans une dictature. Twitter et Facebook ont banni Trump. Liberté d'expression, mais... » Excusez, là, c'est Trump qui s'est comporté en dictateur. C'est Trump qui a essayé ou qui a rentré dans la tête à des gens de faire un coup d'État puis de faire un déni de démocratie. Il y a une élection démocratique, OK, qui est très claire. Puis des dizaines de juges l'ont confirmé que l'élection était légale, OK? Puis là, Trump, il dit « Non, non, moi, je vais garder le pouvoir, j'ai gagné. » Puis il continue de répéter ça, puis il encourage des débiles à aller entrer de façon illégale dans le Capitole. Puis vous allez me dire que c'est Twitter et Facebook qui agissent en dictateur puis en censure. C'est Trump qui a agi comme dans un pays de marde. C'est Trump qui a agi comme un représentant d'un pays, d'une république de bananes. C'est lui... Je vais pas ressortir une expression trop enfantine, mais c'est lui qui a commencé. C'est ça pareil, là. C'est lui qui a commencé à jouer le dictateur puis à essayer de jouer le dictateur en passant, quitte à rabrouer puis à bafouer le vote des citoyens de son pays qui est la plus grande démocratie au monde. Le problème, c'est pas Twitter, Facebook. Le problème, c'est Trump.
C'est
lui qui a essayé de jouer à Poutine, qui a essayé de jouer à n'importe quelle espèce de dictateur débile. C'est ça la réalité aussi.
Tantôt, quelqu'un écrivait, hey, c'est toujours bien. Quelqu'un a dit, faites pas comme les conspirationnistes, là. T'sais, croyez pas n'importe quoi, c'est toujours bien pas Trump qui a organisé ce qui s'est passé. Il l'a peut-être pas organisé avec une feuille puis des plans puis une règle.
Il a pas donné de budget pour ça, je pense.
Il l'a fomenté, il l'a alimenté, il l'a encouragé. Sa responsabilité, elle est on ne peut plus clair.
C'est lui qui répétait jour après jour qu'il avait gagné by a landslide en plus. Alors que c'est le contraire. Biden.
Le jour même, c'était épouvantable.
Ben oui, Biden a gagné facilement l'élection. Puis ça plaît pas aux partisans de Trump. Mais en bout de ligne, avant de parler de Twitter et de Facebook, c'est lui, là, qui a décidé de jouer la carte du coup d'État puis la carte antidémocratique à la base. Donc après ça, c'est normal que des réseaux sociaux décident de le bannir aussi. C'est lui qui est antidémocratique. 11h43, vous êtes à l'écoute de Trudeau-Landry, courte pause.